Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Virginie du site bougribouillon.fr et du compte Instagram du même nom. C'est une illustratrice qui a travaillé sur beaucoup de principes de la petite enfance, comme la motricité libre, la DME, la diversification menée par l'enfant, et d'autres sujets, plein de sujets, qui sont très très intéressants à découvrir sur son site. Quand je suis devenu papa, il y a trois personnes qui m'ont beaucoup influencé. Il y a eu Marion Quercq qui m'a vraiment réveillé sur le sujet des violences éducatives ordinaires, suivie par Fanny Vella qui m'a aussi beaucoup ouvert les yeux grâce à son travail sur ce sujet-là aussi. Et puis au fil des découvertes, je me suis demandé mais comment on fait ? Et c'est là qu'intervient Virginie avec son travail sur Bougribouillon, qui apporte des solutions, qui apporte des explications pour comprendre toutes ces notions avec des illustrations. C'est très très chouette comme travail, en tout cas moi ça m'a beaucoup apporté, je vous invite très vivement à le découvrir. Et pour le coup, ben, on voulait discuter un petit peu, et là on va changer un petit peu le format habituel, puisque nous sommes sur une discussion un peu libre, un petit peu comme si elle et moi on se rencontrait en vrai pour discuter, et qu'on se posait la question, tiens, c'est quoi devenir parent ? Voilà, donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Vous noterez peut-être que par moment, pour des raisons techniques, ma voix fait un peu écho à quelques secondes, et aussi que nous avons été, je dirais pas dérangés, mais que nous avons été accompagnés pendant une certaine durée par son bébé qui est arrivé il y a pas très longtemps pour une tétée. Donc vous entendrez par moment des bruits de bébé. Mais ça ne me dérange absolument pas et j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi et qu'à nous. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour Cédric.
Écoute, je suis ravi de te recevoir. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes épisodes à quel point ton travail m'a aidé, ton travail sur ton compte Bougribouillon m'a aidé à cheminer en tant que parent et que père. Et je suis vraiment très très content de pouvoir échanger avec toi sur un sujet que tu as choisi, un sujet qui va être donc en expression libre, sur lequel nous n'avons pas préparé de questions, et qui est devenir parent.
Eh oui, devenir parent. Alors, devenir parent, pour moi, ça commence... Avant la naissance, avant la grossesse même, quand on fait le choix de devenir parent ou pas, des fois ça nous tombe un peu dessus sans qu'on ait forcément fait le choix, mais en tout cas le choix du départ quoi. Et puis moi personnellement, ça nous est tombé dessus un peu comme ça. Enfin, on l'a choisi, on y a réfléchi avant, mais disons que ce qui s'est passé, c'est que c'était zut, moi je prenais pas de contraceptifs hormonaux, donc voilà, c'était normalement, ça devrait le faire à cette période-là, j'étais pas trop encore en lien avec mon cycle à moi, comment je fonctionnais, donc normalement ça devrait le faire, et puis ma mère me dit, mais quoi, non, pas du tout, c'est comme ça que je vous ai eu, donc on s'est dit, bon bah peut-être, bon allez, et si j'étais enceinte bah, ce serait super en fait. Et puis ben non, j'étais pas enceinte cette fois-là, donc ça nous a rendu tristes en fait. En quelques semaines, on s'est dit, mais on a vraiment envie de devenir parents. Mais j'avais pas du tout réfléchi à ce que ça impliquait, à ce que ça allait changer dans nos vies. C'était quelque chose qui s'est passé vraiment sans aucune réflexion de tous les enjeux que ça allait engendrer quoi. Et donc voilà, je suis tombée enceinte très rapidement et j'ai commencé à me poser plein de questions. Et donc j'ai tout fait comme on fait, comme c'est écrit, voilà, comme c'est par habitude et par normalité, on va dire. Quand je dis normalité, c'est vraiment la norme pour moi, c'est pas ce qui devrait être forcément, mais c'est ce que la majorité fait en fait, sans vraiment forcément se poser de questions. Et donc, je suis allée voir ma gynéco et je lui ai dit, elle m'a suivie, elle m'a dit qu'elle allait me suivre jusqu'à la naissance et elle faisait des échographies à chaque mois, etc. Et puis, j'ai très vite eu des questions sur la grossesse, sur les cours de projet d'accouchement, des choses comme ça, et je sais plus, j'ai oublié mon mot là.
La préparation à l'accouchement ?
Oui, voilà, merci. Donc voilà, la préparation à l'accouchement. Et puis la réponse a été, vous aurez le temps de vous poser toutes ces questions, c'est pas pour, pour tout de suite, quoi. Sauf que moi, j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de réponses tout de suite parce que je me pose beaucoup de questions et j'ai besoin d'anticiper un petit peu les choses pour me sentir à l'aise et surtout d'approfondir les choses. Pas vraiment d'avoir les réponses à tout, mais de me sentir moi en lien avec les réponses que j'ai. Et j'étais pas du tout en lien. Enfin, déjà, j'avais pas de réponse, donc j'ai cherché par moi-même, du coup. Vu qu'aucun professionnel ne m'apportait de réponse, j'ai cherché par moi-même. Et je suis très vite tombée sur un livre qui s'appelait « Vivre sa grossesse autrement ». Je ne me rappelle plus du tout de l'autrice. Il me semble que c'est une femme. Et je crois qu'elles étaient plusieurs même. Et qui faisait suite apparemment à un autre livre. Donc ce livre-là parlait des préparations à l'accouchement principalement et un petit peu de l'après, après la naissance avec l'enfant. Donc voilà, j'ai trouvé déjà des réponses sur la préparation à l'accouchement et précisément, plus précisément, l'autonomie qui mettait en lien le papa. Et moi, j'avais besoin d'un projet commun. Je me sentais pas seule en fait là-dedans, je me sentais vraiment en couple avec ce projet de bébé, ce petit bébé qui grandissait et je trouvais que l'autonomie, enfin en tout cas ça m'a beaucoup parlé, ça a surtout parlé au papa aussi quoi, de se dire tiens je vais avoir un rôle à jouer même pendant la grossesse quoi. Donc voilà, on est parti sur l'autonomie et ce livre parlait d'un petit peu de l'après. Et donc moi j'allais aussi sur les forums, sur Doctissimo principalement, je cherchais un peu des réponses partout. Et donc sur Doctissimo, il y a une dame qui m'a parlé de ce deuxième livre qui précédait ce livre-là, qui s'appelait « Élever son enfant autrement ». Donc là, pour le coup, de Catherine Dumontail-Crémer. Et là, ça m'a ouvert des portes sur tout ce monde que je ne soupçonnais pas sur l'éducation, sur le développement de l'enfant, sur comment accompagner vraiment d'une autre manière, comment voir les choses autrement. Et je ne l'ai pas lu d'une traite, j'ai vraiment pris ce que j'avais besoin de prendre à ce moment-là. Il y a des choses qui me parlaient, d'autres qui me paraissaient mais complètement décalées, enfin, impossibles, voire, je ne sais pas. Je me disais, non, ce n'est pas possible de voir les choses comme ça. Enfin, j'avais encore des vieux principes éducatifs. Moi, j'ai été élevée comme tout le monde, quoi, avec des violences éducatives ordinaires. Il n'y a pas eu de violence au-delà de ça. Enfin, c'était vraiment comme on élève les enfants. Il n'y avait rien de particulier, mais j'ai été élevée comme tout le monde, on va dire, quoi, à la normale à cette époque-là. Quoi. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire ce livre, à trouver des idées. Puis voilà, donc la grossesse s'est très bien déroulée. Il n'y a rien eu de particulier. L'autonomie nous a beaucoup parlé. La naissance... Bah oui, je me suis renseignée aussi sur la naissance. Enfin, y avait tellement de choses. C'est pour ça que j'avais tellement de questions. Et face à ces professionnels qui me fermaient les portes en me disant, en gros, que c'était pas mon problème à moi, quoi. J'avais besoin de me sentir investie dans... C'était mon corps, c'était mon bébé, c'était mon projet, c'était moi. J'avais pas envie de passer la main à quelqu'un pour ces choses qui me paraissaient si importantes. Et donc, dont la naissance aussi, l'accouchement, en fait. L'accouchement, bon, j'ai eu beaucoup plus... De réponses après, mais mon premier accouchement, j'avais quand même un projet d'accouchement qui faisait 2 pages, donc bon, c'était ce qui a été très bien accueilli, mais moi j'étais pas prête en fait. Par exemple, ma mère a toujours dit qu'elle avait accouché très vite, donc je me suis dit bon, bah, j'accoucherai très vite aussi, alors que mon accouchement a duré, je sais pas, 18 heures, un truc comme ça, enfin même plus, enfin, je sais plus, mais beaucoup en fait, quoi. Trop. Et voilà, j'étais pas du tout prête à faire face aux contractions. Moi qui voulais accoucher sans péridurale, ben ça a été impossible. Maintenant je vais parler de choses, j'ai des termes maintenant qui m'auraient vraiment permis de comprendre les choses avant, mais par exemple d'être dans ma base, et ben ça je savais pas. Quand je poussais des cris, c'était plutôt là-haut dans les sons aigus, ce qui m'aide pas du tout à redescendre sur ma base et sur Depuis, j'ai eu 2 autres accouchements sans péridurale pour le coup, et c'est grâce à mon premier accouchement que j'ai compris ce qui m'avait manqué. Bon, j'avais froid aussi, ça m'a pas aidé non plus. Et les sages-femmes, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi les sages-femmes ne savent pas quand une femme qui accouche, qui a froid, et ben faut qu'elle ait chaud, parce que si on a froid, ben les muscles se contractent, et si les muscles se contractent, et ben ça fait encore plus mal, alors que la contraction n'est pas forcément plus importante, quoi. C'est juste que tout va paraître. Et le stress, et par exemple, de me dire à combien je suis, donc les touchés vaginaux qui s'enchaînent les uns les autres toutes les heures pour savoir où on en est, et de me dire, alors maintenant c'est pareil, je sais que c'est pas linéaire, que c'est pas un centimètre par heure, ça peut être d'un seul coup, le col va s'ouvrir de 5 centimètres en à peine une heure, alors que ça fait 3 ou 4 heures que ça stagne. Et à chaque fois qu'elle venait vérifier, à chaque fois, mais j'étais décomposée à me dire, mais seulement, quoi, ça a seulement avancé de ça. Enfin, donc c'est pareil, maintenant, quand je connais toutes les hormones qui rentrent en jeu dans un accouchement, et donc le stress qui va bloquer tout ça, enfin, les hormones du stress qui vont bloquer tout ça, qui vont bloquer tout ce qui va me permettre de gérer un peu mieux mes contractions, qui va bloquer l'endorphine, l'ocytocine, toutes ces choses-là qui vont me permettre d'avancer dans le travail et de pas avoir trop mal, et ben tout ça c'était bloqué. Donc bon, bref, quand je fais le cumul de ce que j'ai vécu pour mon premier accouchement, je me dis mais forcément je pouvais pas y arriver avec ça, quoi, c'était pas possible, quoi. Et puis voilà, je l'ai quand même très bien vécu, j'étais très heureuse, j'avais aucune déception après mon premier accouchement, j'étais aux anges, quoi. Et je me sentais bien, je me sentais confiante avec mon bébé. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé, l'allaitement. Je m'étais beaucoup renseignée sur l'allaitement. J'avais notamment fait un forum sur l'allaitement. Enfin, c'était un forum avec plein de professionnels qui faisaient des mini-conférences. Par hasard, pendant la grossesse, il y en a eu 15. J'en ai jamais revu depuis dans ma ville, quoi. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir ça parce que ça m'a apporté plein de réponses sur le positionnement du bébé, ces choses-là. Bon, en frein de langue, j'étais pas encore calée. Je ne savais pas que ça existait encore, mais voilà. Il y avait... Du coup, l'allaitement s'est bien déroulé dès le départ. Il y avait un petit frein, mais voilà, il a réussi à gérer quand même. Et voilà, donc la maternité a commencé comme ça. La parentalité a commencé comme ça. Le papa avait un rôle très important, enfin, il s'est investi directement aussi, ça c'était vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important quand on a un enfant, si c'est le choix, après on peut avoir envie d'un enfant seul, c'est ok aussi, mais quand on le fait en couple et qu'on se retrouve seul à la naissance du bébé, parce que ben, pour des raisons... sociétal, quoi, le père d'habitude de reproduire un schéma, et ben le père s'écarte un peu, ou la mère prend toute la place, enfin ça peut être un peu des deux aussi, ou petit à petit ben le père va être écarté et la mère va prendre toute la charge de l'enfant sans vraiment s'en rendre compte, et bon après on se rend compte qu'on est fatigué, on sait pas trop pourquoi, mais là en tout cas le papa, peut-être avec l'autonomie, peut-être aussi moi qui suis un petit peu moins touchée par ça, enfin je sais pas, en tout cas il y avait vraiment on était vraiment deux dans on a été deux pendant la grossesse, on a été deux pendant l'accouchement, il était présent aussi et on était deux à la naissance. Bon, après il est vite retourné travailler, donc ça forcément j'ai eu beaucoup plus de charges très rapidement. Après, j'ai eu un long moment où je ne me suis plus trop renseignée, donc j'ai vécu mon rôle de maman tranquille avec les choses que j'avais lues un petit peu à droite à gauche. On faisait de l'hygiène naturelle infantile, j'avais lu un livre qui s'appelle « Sans couche, c'est la liberté » de Ingrid Bauer, et elle parle d'hygiène naturelle infantile, donc c'est le fait de proposer, enfin de reconnaître les signaux du bébé quand il a envie de faire pipi ou de faire caca. Donc d'éliminer, c'est comme ça qu'elle dit dans le livre. Donc qui part du principe que l'enfant, dès la naissance, est conscient, en tout cas a la sensation de quand il va faire pipi ou caca. Donc bien sûr, il ne peut pas se retenir pendant 3 quarts d'heure. Mais clairement les signaux sont là, donc bien sûr que quand on dit qu'un enfant il est pas, que les sphincters sont pas matures et tout ça, je l'ai vécu 3 fois, du coup là j'ai 3 enfants, je l'ai vécu 3 fois et pour mes 3 enfants, et puis j'ai beaucoup d'amis qui ont pratiqué ça aussi avec leur enfant, et clairement les tout petits peuvent retenir quelques secondes, quelques minutes en signant, donc après il y a en signalant, donc après oui il y a des enfants qui vont signaler plus ou moins clairement. Donc c'est ça le jeu, je dirais, parce que pour moi c'est un peu plus un jeu qu'autre chose, c'est vraiment, je propose, bon j'ai eu plein de pipi sur moi, plein de caca sur moi, il y en a eu plein par terre aussi, mais c'était génial en fait de choper un pipi, quoi. De choper un pipi, de choper un caca, puis petit à petit, parce qu'en fait, le principe, clairement, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une plus grande connexion. Une fois que je le sais, j'avais lu ce livre, ça m'avait intéressé. Et une fois qu'on le sait, on peut pas dire, ah oui, il a envie de faire pipi, ben, je vais pas lui proposer. Enfin, je me dis, mais il va se faire dessus, je suis disponible, ben, autant que je lui propose de faire ailleurs que sur lui, quoi. Clairement, c'était pas le but. C'est avec cette façon, cette approche, c'est pas le but, c'est pas qu'il soit propre, plutôt, comme on dit. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là. On dit plus. Enfin, je sais pas. Il y a plein de mots différents pour le dire ça, mais en tout cas, c'était pas le but. C'était pas qu'il soit continent ou qu'il ait un contrôle de ses sphincters ou je sais pas quoi plus rapidement. C'était juste ben, qu'il soit écouté là-dessus, comme il est écouté sur le sommeil, comme il est écouté sur l'allaitement, sur son besoin de manger, ben là, il est écouté sur son besoin d'éliminer. Et puis si on le fait pas, c'est ok aussi. Enfin, c'est quand il y avait des jours où je me sentais pas, je me sentais crevée, j'arrêtais pas de rater les pipis et tout ça, je me disais, ben, je remets une couche imperméable, parce qu'il avait des couches tout le temps, mais qui n'étaient pas imperméables, ce qui me permettait de les enlever rapidement, c'était des couches lavables. Et donc, du coup, voilà, je remettais une couche imperméable et je me posais plus de questions là-dessus. Et voilà, je changeais la couche régulièrement, c'est tout, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de... Bon, bien sûr, des fois, je me prenais un peu trop au jeu et je sentais un agacement en moi. Et c'était là, c'était le moment. C'était le moment où ma petite voix me disait, si tu sens un agacement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est que t'es plus en lien. Voilà. Donc, cale l'affaire, remets des couches et puis tu verras plus tard, quoi. Donc voilà, ça allait jusque-là. Quand je lui proposais, par exemple, un pipi, puis qu'il se cabrait, que ça allait pas, qu'il commençait à pleurer, je me disais, mais... Puis alors que je savais, j'avais vu, je me disais, mais si, il vient de me dire, enfin, de signaler clairement qu'il y avait un pipi, ou un caca, et puis je le reposais, puis pouf, il faisait par terre, quand il était à quatre pattes, par exemple. Et là, ça m'énervait. Et je me disais, mais justement, c'est pas ça, l'hygiène naturelle, c'est pas ça, le principe. Pourquoi j'ai fait ça, c'est pas pour qu'il fasse absolument à l'endroit où j'ai décidé, quoi. Donc voilà, c'est ces moments-là où je me disais, c'est le moment de remettre des couches et de lâcher prise un petit peu, quoi. Et puis ça revenait après, et puis voilà. Puis après, je me rendais compte souvent, pendant l'hygiène, bon là, je pars sur l'hygiène, hein, c'est pas ça la parentalité pour moi, mais l'hygiène naturelle, c'est pas ça forcément, mais voilà, je pars là-dessus un petit peu à fond, mais... Mais pour moi, c'était pas forcément... Oui, je me rendais compte pendant ces moments de déconnexion où soit c'était moi qui étais trop fatiguée, soit c'était lui. Je parle du premier parce que c'est là où je l'ai découvert. Après, j'avais moins ces questionnements et puis je comprenais plus vite ce qu'il en était. Mais pour le premier, c'était plus... je comprenais après coup qu'en fait, lui était dans autre chose. C'est-à-dire, ok, il signalait parce que bah, son corps le signalait, mais c'était pas le moment pour lui de penser à ça. Par exemple, juste après, bah, je sais pas, il marchait ou il allait à quatre pattes. Enfin, il y avait un développement, il passait une acquisition juste après, généralement, les moments de décalage avec les pipis et tout ça. Donc, bon, je comprenais après que c'était juste, bah, il n'était pas là-dedans et voilà, quoi. Ou les dents, une dent qui allait pousser. Voilà, donc ça, voilà. L'hygiène naturelle, ça fait partie des choses que j'ai découvertes en tant que parent et par mes recherches. Et voilà, et j'ai découvert tellement d'autres choses aussi, notamment la motricité libre que j'ai découvert au moment où j'ai commencé à le positionner assis de moi-même, en fait. Donc il avait des reflux, il avait beaucoup de reflux, donc je ne l'ai jamais trop mis sur le dos. Donc pour le coup, ça aurait rien changé parce que j'avais pas trop le choix. Il était sur le ventre, il dormait sur le ventre malgré les préconisations, ce qui n'est pas... Je ne conseille pas du tout de mettre un bébé sur le ventre pour dormir, etc. Mais bon, il dormait beaucoup avec nous, donc il était surtout sur le côté et j'étais avec lui. Mais voilà, il était du coup beaucoup sur le ventre aussi pour les siestes. Bon, les siestes, il les faisait principalement dans l'écharpe quand même. Par choix de portage, parce que voilà, j'aimais bien avoir mon bébé sur moi, je me disais que si j'étais dispo, si c'était possible, pourquoi aller le poser. Et puis surtout, pour lui, dès que je le posais, en fait, il pleurait parce qu'il avait les reflux, ça le brûlait. Donc bon, c'était un choix, disons, qui poussait, mais ça me perturbait pas, ça me plaisait très bien. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, j'avais un ami à moi qui était venu nous voir qui n'avait pas encore d'enfant. Et il était tout petit et il me dit, mais du coup, il fait ses siestes où? Je dis, ben là, je l'avais sur moi, là. Je dis, ben là, oui, non, mais quand il dort, il fait ses siestes où? Je dis, ben là, d'accord, mais la nuit où ben, il est avec nous, d'accord, mais il comprenait pas, en fait, que je couchais pas mon bébé, quoi. C'était, et pour moi, ça me paraissait, du coup, après quelques semaines, ça me paraissait tellement évident, parce que ben, moi, j'avais l'habitude de faire comme ça. Et qui pour lui, bah, qui avait plutôt un schéma classique dans la tête, comme moi je l'avais bah, juste avant de me poser toutes ces questions-là. Du coup, bah, pour lui, c'était plus difficile d'imaginer que ce bébé n'avait pas de lit, en fait. il avait une chambre avec un petit lit, parce que j'avais bien tout prévu, sauf qu'à la naissance, tout a été complètement chamboulé. Enfin, la chambre, elle a pris la poussière pendant des mois, en fait, quoi, hein, jusqu'à ce qu'on s'en serve comme débarras, parce que, bah, en effet, on ne l'utilisait pas, cette chambre. Ni son lit, ni rien. Le lit est devenu, quand il a commencé à être à quatre pattes, est devenu la petite banquette dans le salon sur laquelle il pouvait aller lire ses livres ou voilà, faire ses jeux, quoi. On se posait, mais voilà. Donc pour en revenir au sujet principal, parce que je pars un petit peu sur mon expérience personnelle là, mais...
Mais vas-y.
Ouais. Mais ouais, le devenir parent, pour moi, ça a été surtout ça. Ça a été surtout toutes ces questions auxquelles j'avais pas de réponse et auxquelles... En fait, ce qui me perturbe le plus, c'est pas tant qu'on ne parle pas de choses précises comme l'hygiène naturelle ou la motricité libre ou ces choses-là par les professionnels quand on nous accompagne, mais c'est surtout qu'il y a un schéma... Enfin, je trouve ça dommage qu'il y ait un schéma, une vision de l'éducation, une vision de comment vivre sa grossesse. Je parle général parce qu'il y en a plein des visions, mais quand on commence à se renseigner ou quand on a les bonnes personnes autour de nous... Mais quand on prend juste un schéma classique, on va voir sa gynéco fait les échographies, et puis, et ben du coup, on peut pas faire des choix en conscience, en fait, parce qu'on sait pas que tout ça existe, on sait pas qu'il y a peut-être un autre moyen d'être accompagné, par exemple, d'aller voir une sage-femme libérale, on sait pas que peut-être, ben, l'échographie, c'est peut-être pas tip-top pour le bébé, donc trois fois, c'est peut-être largement nécessaire, c'est peut-être largement suffisant, si on n'a pas besoin de plus en tant que parent, enfin... On sait pas que l'accouchement, bah, il peut se faire peut-être différemment. Donc, alors oui, on peut pouvoir par hasard rencontrer des professionnels qui vont être un peu plus ouvertes sur ce sujet-là, ou ouverts sur ce sujet-là. Mais voilà, ça va être le coup de bol. Et c'est ça le problème, quoi. C'est que c'est un enchaînement de coups de bol de savoir comment on va accompagner notre enfant, quoi. Et pas un... Voilà, il existe ça... comment vous vous sentez, comment vous, voilà, pour l'allaitement, on le fait un peu, c'est allaitement, pas allaitement, il n'y a pas trop de jugement, bon bah après si, on peut tomber sur des maternités qui vont juger l'un ou l'autre, hein, c'est pas des maternités qui vont être pro-allaitement, c'est super, mais du coup, les mamans qui allaitent pas, elles vont être regardées d'un mauvais œil, et vice-versa, dans les maternités qui sont pas trop au fait de l'allaitement, et qui vont vite fait... proposer un biberon parce que bah, la montée de lait n'est pas faite dans les 72 heures. Voilà. Donc, mais bon, l'allaitement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de visibilité sur les deux choix, quoi. Et bon, après deux choix, il y a un peu plus, quoi. On peut tirer allaiter, on peut faire plein de choses, mais voilà. Mais par contre, oui, pour par exemple, bah, pour le développement de l'enfant, rien que ça, il y a plein de petites choses qu'on pourrait savoir. Par exemple, moi, j'ai ma sœur qui a fait une formation, là, qui est assistante maternelle et qui a fait sa formation il n'y a pas très longtemps. Et sa formatrice, bah, elle était déjà ouverte à tous ces sujets-là, donc elle était super contente de trouver une formatrice qui parlait de tout ça. Et apparemment, c'est assez fréquent maintenant dans les formations de la petite enfance d'aborder des sujets comme le développement de l'enfant, comment il se développe, la motricité libre. Notamment, la formatrice a beaucoup utilisé de mes affiches pour annoncer un petit peu, pour accompagner sur son discours. Et je me dis, mais les parents devraient savoir ça, en fait. C'est bien que les professionnels de la petite enfance sachent ça, c'est nécessaire et c'est indispensable. Mais les parents, c'est aussi des professionnels de la petite enfance. Au bout d'un moment, ils vont le devenir puisqu'ils vont avoir des enfants. Et pour moi, être pro de la petite enfance, bon bah voilà, il y a tout un cadre d'accueil, de multi-accueil, etc. que le parent ne va pas être forcément, va pas avoir besoin forcément de savoir comment on accueille un groupe, etc. Mais notamment sur le développement de l'enfant, ça devrait être faire partie de la grossesse, en fait, d'une formation qu'on propose à tous les parents. Père compris, pour qu'ils puissent être investis dès le départ aussi. sur justement comment se développe l'enfant, le développement moteur, le développement psychique, les besoins qu'il va avoir, les besoins de contact. Par exemple, il y a encore, j'entendais moi avec mon premier encore, c'est le prends pas trop dans tes bras, il va s'habituer. Enfin, ce genre de truc, ça devrait, on devrait plus l'entendre maintenant avec tout ce qu'on sait. Alors, si peut-être de nos grands-mères et tout ça, parce que bon, elles se sont pas mises à jour, puis c'est plus le moment pour elles de se mettre à jour sur comment on s'occupe d'un bébé. Mais quoique, pourquoi pas, il y en a plein qui se mettent à jour aussi et puis qui découvrent ça. Mais bon, après, il y a tout un contexte de culpabilité qui peut intervenir et qui complique un peu les choses. Mais voilà, en tout cas, les parents de maintenant, ils devraient pouvoir avoir accès facilement à ces formations-là, comme on propose un accompagnement à l'accouchement. On propose ça aussi, un accompagnement à la parentalité. Les bases, bien sûr que je ne parle pas de rentrer dans les détails, des détails, des détails, et de lire à 25 bouquins, mais rien qu'une formation d'assistante maternelle, ça ne dure pas non plus un nombre d'heures énorme, et pourtant, ils abordent énormément de choses, dont en plus des choses que le parent n'aurait pas besoin, comme des choses administratives, mais voilà. Donc moi, je trouve ça dommage que... Bah, des personnes voilà, qui fonctionnent comme moi, où bah, je vais avoir besoin de réponses sur n'importe quel sujet. Quand j'aborde un sujet, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle, j'ai besoin d'aller jusqu'au fond et pour pouvoir en sortir quelque chose et me sentir à l'aise avec ce sujet. Je l'ai fait avec ma parentalité, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, ça devrait être accessible plus facilement pour les personnes qui ont un autre fonctionnement ou qui se font peut-être plus confiance sur des choses, mais du coup, se faire plus confiance sur... Moi, je me pose pas trop de questions, j'y vais comme ça, mais du coup, bah, on est très marqué par notre propre éducation. Donc, du coup, l'évolution est un peu plus compliquée. C'est sûr qu'il y a moins de stress et puis qu'il y a peut-être moins de stress pour l'enfant aussi, parce que quand on n'est pas... quand on se pose trop de questions et que du coup on provoque un désalignement, enfin je parle de quand on est aligné avec soi-même, du coup on est tout est ok, enfin, ok on n'a pas géré là-dessus, bon, moi je suis quand même alignée, c'est ok pour moi, donc ça va être ok pour l'enfant, on va s'expliquer, on va s'excuser ou on va en parler, mais bon ça peut provoquer un moi je voudrais faire comme ça mais j'ai plutôt tendance à faire comme ça, oh là là, je lui ai dit ça, ou alors j'ai fait ça avec lui, du genre, je sais pas, je me renseigne sur la motricité libre, faut surtout pas sur les bébés, du coup, je l'ai assis, mon Dieu, ça va être horrible, enfin, faut surtout pas le faire, ou mamie est en train de l'asseoir, oh là là, alors, voilà, et bon, j'étais un peu comme ça, moi, au début, hein, pour mon premier enfant, fallait, si je pouvais pas lui proposer une courgette qui était pas bio, quoi, par exemple, parce que, bah, c'était pas bon, quoi. Je pouvais pas, si quelqu'un le tenait pas bien, enfin, ça m'angoissait. Et puis, je me suis un peu décontractée sur le sujet, quoi. Mais à force, je me rends compte que, justement, c'est le fait de se renseigner soi-même et que ça coule pas de source et que ça soit au fur et à mesure et que ça soit pas intégré dans la société, dans notre entourage, bah, du coup, ça provoque des stress chez le parent de se dire... on se renseigne tout seul, mais du coup, on va aussi aller... J'ai suivi au début des groupes, par exemple, sur Facebook, des groupes sur la motricité libre, où c'était... Enfin, c'était vraiment trop. Enfin, dans le sens où le principe de la motricité libre, c'est de laisser l'enfant se développer par lui-même, avec son rythme. C'est-à-dire qu'il va passer par des stades moteurs qui va se rejoindre plus ou moins suivant les enfants, mais bon, c'est pareil, si on les laisse faire, on va se rendre compte qu'il n'y a pas une façon de se développer, mais plein de façons de se développer, mais en règle générale, ça va être, voilà, le bébé, on le pose sur le dos, il va se retourner de lui-même, je ne sais pas, vers 6 mois, vers 9 mois, ça va dépendre des enfants, et puis ensuite, il va commencer à essayer de ramper, au début, il va ramper à l'envers, parce qu'il va lever ses bras, et puis ben, l'arrière va pas suivre, donc il va lever ses bras, puis partir en arrière, et relever ses bras et partir en arrière, ce qui est très frustrant pour les petits à cette époque-là, parce que ben, ils veulent aller à l'avant, aller chercher le jouet qui est devant eux, et ils reculent et ils râlent, parce que ben, ils peuvent pas aller dans l'avant. Donc voilà, donc on peut accompagner ces moments-là, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est lui donner le jouet, ce qu'on va vouloir faire, c'est le mettre assis, pour que, ben, suivant ce qu'on pensait avant, il se muscle le dos, etc. Et le principe de la motricité libre, c'est bah de justement pas le mettre assis parce que il va se muscler d'autant mieux quand il sera sur le sol à se soulever avec les bras, ensuite à quatre pattes, etc. Et puis, enfin, moi, mon deuxième, il a fait, il rampait et il s'est mis debout. Il arrivait à ramper jusqu'à une chaise, par exemple, il prenait un barreau et il se mettait debout. Et il a fait du quatre pattes après ça. Donc là, il n'était pas du tout assez costaud, en fait, sur, donc il tombait souvent à ce moment-là. Mais bon, il tombe pas de très haut. Je mettais, généralement, je suivais avec quelque chose qui était un peu mou. Je le mettais derrière lui en me disant, bon, bah, quand il tombera sur quelque chose qui n'est pas trop dur. Mais voilà. Je sais plus, je me perds un peu, mais c'est oui le mais, principe ouais je t'écoute
c'est super intéressant en fait tu développes une multitude de sujets qui font partie de la parentalité j'ai envie de dire où qu'on se l'approprie
oui
et c'est vrai que devenir parent aujourd'hui c'est moi ce que je retiens en tout cas de ce que tu dis parce que tu parlais de quels sont les enjeux tu parlais de projets communs déjà il y a une vraie notion d'être acteur et actrice du fait de devenir parent et d'y être ensemble. Ça c'est une grosse première étape, je pense, à comprendre. Et après, j'ai vraiment noté ce que tu disais par rapport au fait qu'il y avait des choses qui te paraissaient décalées ou impossibles.
Mmh. Ah oui.
Ah ouais, non, mais moi, je vais venir sur mon expérience personnelle. C'est moi, la DME, tu vois, par exemple, c'est quelque chose où j'étais là, mais c'est ma compagne qui amenait le sujet. Et je t'avoue qu'au départ, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit? On en parle à la pédiatre. La pédiatre, ouais, bon, machin, elle essaie d'argumenter un peu. Et en plus, à ce moment-là, si tu veux, j'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la puériculture et tout. Donc, j'étais là, bon. Et en fait, on l'a fait. Avec, je pense, toutes les craintes que ça peut amener. C'est-à-dire, quand tu vois le premier réflexe d'éjection de ton enfant, mais tu deviens blanc, quoi. Je me rappelle avoir appelé ma compagne, si tu veux, en lui disant, écoute, chérie, après mon premier repas tout seul, tu vois, avec la petite, en disant, écoute, chérie, c'était chaud, quoi. C'était chaud. mais on va continuer quand même parce que j'ai bien vu aussi toute les yeux qui pétillent de mon enfant sur la découverte.
C'est ça, ouais.
Et truc super drôle avec la pédiatre, ça a été que c'est quelque chose qu'on a un peu imposé, la DME, au niveau de la pédiatre, enfin, qu'on a totalement imposé d'ailleurs. Et après plusieurs mois, elle nous dit, ah mais en fait ça marche.
Ah oui, parce qu'elle a vu d'autres...
Non, elle n'en a pas eu d'autres en fait. En fait, elle, en 25 ans de carrière, nous étions le premier cas qui se présentait à elle où les parents font de la DME, en 25 ans de carrière.
Ouais.
Et si tu veux, ça fait partie des choses où je me dis, comme tu le disais très très justement, on ne nous l'a pas enseigné ça. Alors maintenant, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi parce que je sais que la puériculture, c'est quelque chose qui est né loin des parents. C'est quelque chose qu'on l'a évoqué avec Ingrid Bayo, qui est né loin des parents. C'est quelque chose où en fait, le but de la puériculture, c'est de maintenir en vie avec des choses mesurables. Ça, c'est l'origine pure. Hein. Donc forcément, t'oublies les... Eux, ils ont besoin de quantité, de choses mesurables, de tant de portions, tant de millilitres, tant de machins. Ouais, sauf que quand tu découvres que ton enfant, en fait, bah, s'il mange un repas, j'en sais rien, un quart de banane, alors que toi, t'as préparé plein de pâtes et tout, des trucs sympas, tu vois, qui s'en fout, et qu'après, tu laisses traîner l'assiette, il revient 2 heures après, et puis finalement, il bouffe tout à un moment totalement improbable. Enfin, je pense que tous ceux qui ont fait de la DME de manière libre vont se reconnaître dans ce genre de situation. Ouais. Mais tu te rends compte aussi la pression qu'on te met, en fait. Cette espèce de pression de résultat. Et c'est là où, moi, quand je t'entends parler du parcours classique, entre guillemets, pour être parent, c'est aussi une obligation de résultat, quoi. Ton enfant, il doit dormir à tel truc, il doit à tel mois, il doit manger tant à tel mois, il doit réussir à faire ça à tel moment. Waouh !
D'ailleurs, c'est les questions qu'on te pose, quoi, dès le départ. On ne te demande pas, je ne sais pas, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est sage, déjà? Ouais. Est-ce qu'il est sage? On m'a demandé ça. Mon bébé, là, ma dernière, elle a 2 mois. On m'a demandé si elle était sage. Alors, j'ai dit, mais oh, c'était un ami que j'aime bien taquiner en plus. Donc, je me suis permise de dire, mais je l'ai regardé déjà avec un sourire. Il me connaît aussi, donc il rigole. Il sait très bien que c'est un mot qui, pour moi, veut rien dire, en fait, quoi. Et je lui dis, tu sais, pour moi, le contraire de sage, c'est faire des bêtises. Donc déjà, de base, je ne pars pas du principe qu'un enfant puisse faire des bêtises, peu importe l'âge, en fait. Il y a toujours un besoin derrière, ou un besoin rien que de découverte. Mais pour moi, ce n'est pas une bêtise, quoi.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ça peut m'embêter, ça peut me faire râler et tout ça, mais je ne veux pas dire que c'est une bêtise. Donc bref, et je lui dis, pour moi, ça, je suis en train de bêter. Je lui dis, tu imagines que ma fille de deux mois, elle peut faire des bêtises, quoi. Elle me dit, mais non, ça, je veux dire voilà, est-ce qu'elle dort bien, est-ce que... Et ça, c'est pareil, dès mon premier enfant, je n'ai pas pu répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il dort bien? Ah ben je sais pas, est-ce qu'il dort bien? Enfin, il dort, voilà. Enfin, il dort quand il a besoin de dormir, du coup. Donc j'imagine qu'il dort bien. C'est comme, est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a bien mangé? Alors bien manger dans notre société, en tout cas dans mon entourage, dans ma famille, dans ce que j'ai vécu, bien manger, c'est beaucoup manger. Et ça c'est pareil, c'est pas ok pour moi, quoi. Parce qu'on valorise quoi? On valorise le fait de s'empiffrer, quoi. Et c'est pas bon pour le corps, et c'est pas... Et dire, est-ce qu'elle a... Ah, ben dis donc, elle a bien mangé, ou elle a pas bien mangé, quoi. Et pas bien manger, c'est pas beaucoup. Mais du coup, bah si, elle a bien mangé, peu importe, il ou elle a bien mangé, parce qu'elle a mangé, ou il a mangé, en fonction de son besoin, quoi. Et que si on permet d'écouter ça, eh ben on permet d'écouter... On permet à l'enfant qui reste en lien avec... avec ses besoins, avec son corps. Et ça, c'est pareil, comme tu disais, tu parlais de DME et tu disais qu'elle avait mangé une banane et qu'elle ne voulait pas du reste. Et bien ça, c'était OK pour toi, mais il y a des parents qui vont stresser parce que, parce que justement, on nous dit qu'il faut que chaque repas soit équilibré, alors que non, il faut que à peu près la semaine soit équilibrée. Si la semaine est équilibrée, c'est bon, le corps, il n'a pas besoin de faire des stocks à chaque heure, quoi, enfin, à chaque repas, quoi. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est dans les stress qu'on peut imposer, que la société peut imposer par, comme tu disais, une obligation de résultat, c'est est-ce qu'il a bien mangé son repas, bien en quantité, par rapport à ce qu'on avait défini qui serait la bonne quantité pour lui. Moi, j'ai pas mal d'expériences autour de moi, de bébés qu'on a forcé à boire le biberon alors qu'il était malade et qui a tout vomi, enfin, forcément. Et il en voulait pas, en fait, parce que bah, quand nous-mêmes, on est malade, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas envie de manger, le corps, il est occupé à autre chose, la digestion demande énormément d'énergie au corps. Donc, quand le corps est malade, eh ben, la digestion, elle est en stand-by, pendant que le corps, il défend ce qu'il faut défendre, quoi. Il se défend, quoi. Et la pression extérieure fait que non, il faut que mon bébé ait mangé, parce que le pédiatre, il m'a dit qu'il devait manger tant à chaque repas. Donc, les pédiatres sont un peu déstabilisés par l'allaitement. Déjà, hein, parce qu'il n'y a pas de quantité aussi, comme tu disais. Mmh. Et par la DME, ben, moi j'en ai... Enfin, si, on lui en a parlé, en fait, à la pédiatre aussi. Mais elle faisait comme si elle n'entendait pas. Elle lui disait, d'accord. Et donc, la quantité, tout ça... ok, on n'a pas insisté. C'était une super pédiatre, elle est partie en retraite maintenant. Voilà, qui nous embêtait pas sur notre façon de faire un peu différente des autres. Elle nous faisait confiance, c'était pas... Voilà, elle nous disait ce qu'il fallait faire, comme il fallait le faire, parce qu'elle se sécurisait elle aussi par rapport aux risques qu'on pourrait prendre. Enfin, c'était pas des risques, mais... Mais voilà, c'est vrai qu'on lui en a parlé vaguement, mais on a fait un peu à notre sauce, on se faisait confiance là-dessus, on n'avait pas besoin de son aval, donc c'était pas dérangeant pour nous, quoi. On n'avait pas besoin de soutien là-dessus, quoi. J'avais vite compris qu'en fait, c'était le soutien, j'allais pas le trouver chez les professionnels, en fait, quoi. Donc je m'attendais pas à ça.
Je trouve que tu te retrouves vite quand tu t'intéresses à tous ces sujets-là, puisque tu t'éloignes de la norme, en fait, de la norme classique, on va dire. Tu te retrouves vite quand même à devoir passer outre certains conseils de professionnels de santé, de professionnels de la petite enfance. Moi, je me rappelle de discussions, quand on cherchait une nounou pour la petite, je me rappelle de certaines discussions où on était à des milliards de kilomètres avec certaines personnes qui sont des professionnels de la petite enfance. Donc, c'était compliqué. Après, je leur en veux pas, hein. Elles ont été formées à une autre époque, avec d'autres vécus et voilà, mais c'est vrai que c'est complexe. Et tu te retrouves quand même à un moment, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, tu te retrouves quand même à un moment à vite t'apercevoir que tu t'en fous. que la vie des autres, parce que là on parle
mais
des pros, mais
t'as
la famille.
Il n'y a pas d'autre mot pour le dire.
Hmm
Il n'y a pas d'autre mot pour le dire.
Ouais, non, mais c'est ça. Tu, à un moment, tu t'en fous. Alors oui, on peut parler de lâcher prise. Non, c'est juste qu'à un moment, vraiment, tu t'en fous. Parce que déjà, on l'a tous vécu en tant que parents aussi. C'est si tu devais écouter les conseils de tout le monde, bah, tu deviens fou ou folle. Quoi.
Enfin, bah oui, parce que tous les conseils se contredisent. Ça, c'est
pas possible. Et donc, pour le coup, si tu veux devenir parent, il y a un mot que j'ai souligné dans ce que tu disais. Tu parlais beaucoup, notamment quand tu parlais de HNI, tu parlais de l'enfant doit être écouté. Et pour le coup, moi, ce que j'ai retenu avec la pratique de la motricité libre, de la DME, de plein de choses, et de la HNI un peu sur le tard, à un an, c'est quand l'enfant est écouté, ça facilite le fait de lui faire confiance.
Ah oui.
Et tu vois, et moi, je trouve que pour le coup, comme tu fais confiance à ton enfant et que tu vois que ça marche, tu te fais confiance, ça fait du bien à ta confiance en toi. Et je trouve que devenir parent, c'est s'épanouir en tout cas en tant que parent, si tu veux, c'est réussir à trouver cet équilibre-là.
Après, je ne sais pas comment... Parce que tu as l'air de t'être mis beaucoup en question sur beaucoup de choses. Et puis vous êtes sur la même longueur d'onde avec ta compagne, et c'est mon cas aussi avec mon compagnon. Et aussi, j'ai une énorme chance... c'est que ma famille m'a soutenue aussi là-dedans. Au début, c'était pas forcément très compliqué pour moi de communiquer là-dessus, parce que je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. En tout cas, je le vois un petit peu autour de moi aussi, mais je sais pas si tout le monde marche comme ça, mais quand je me lance dans quelque chose comme ça, où je vais découvrir, enfin un peu comme si quand le monde s'ouvre devant moi sur quelque chose, je vais être à fond, mais à fond, quoi. C'est-à-dire que je vais refuser en bloc le reste, quoi. J'ai l'impression que c'est un processus plutôt normal et plutôt sain. Mais du coup, pour le coup, j'étais vraiment à fond, quoi. Et donc, pour le coup, ma mère ou ma sœur, qui était un petit peu là-dedans déjà, ma sœur, mais elles se sont un petit peu confrontées à quelqu'un qui était campé sur ses positions, mais qui savait plus écouter le reste, quoi. Et donc ça, c'est pas... Bon, j'aurais pas pu faire autrement, et ça m'a permis, après, de pouvoir lâcher prise, parce que j'avais vraiment exploré cette partie-là, mais cette parentalité-là, on va dire. Mais et je pense que quand on est là-dedans, ça sert à rien de se dire « Ah, il faut quand même que j'accepte le reste, il faut pas trop que... » Je pense, c'est pas forcément un moment agréable pour tout le monde, pour soi-même, parce qu'on n'est pas forcément accepté du reste, ou pour les autres, parce que, du coup, c'est difficile de parler avec moi, avec la personne qui est un peu campée sur ses positions. Mais après, ça permet aussi, une fois qu'on a exploré tout ça, et puis qu'on a repris confiance en nous, sur cette nouvelle façon de voir les choses, et du coup, on permet plus facilement que ça se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité, ou de lâcher prise sur un petit truc parce qu'on se rend compte que c'est pas grave si ça arrive de temps en temps, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, parce que je disais que j'avais beaucoup de chance, moi, parce que mis à part les premiers temps qui n'ont pas été faciles en communication, très vite ma mère s'est remise en question sur ce qu'elle a fait elle, comment elle a fait avec nous, avec beaucoup de culpabilité au départ. Mais elle se répare elle aussi avec ses petits-enfants, parce que du coup avec ses petits-enfants, elle est juste géniale, parce qu'elle se pose plein de questions et qu'elle continue de nous écouter avec ma sœur, parce qu'on se renseigne et puis qu'on lui explique les choses qu'on a compris, etc. Et puis qu'elle voit aussi, elle dit mais mes petits-enfants, enfin bon, forcément c'est une grand-mère avec ses petits-enfants, à peu près toute grand-mère avec ses petits-enfants dirait peut-être la même chose, peu importe le contexte. Mais en tout cas, elle voit cette différence d'approche, ce que ça apporte en confiance en soi chez les enfants, quoi. C'est-à-dire de voir que, par exemple, mon aîné qui a 8 ans, là, comment il va aller vers un adulte, il a des amis adultes, pour lui, ça ne lui pose pas de problème, c'est normal, en fait. T'as un ami, c'est pas un âge, en fait. Un ami, c'est un ami, ou une amie, peu importe, quoi. Je me rappelle son prof de parcours, je ne sais pas si il écoutera le podcast, il va se reconnaître, mais... Il faisait du parcours et il s'était lié d'amitié avec son prof de parcours et il l'invitait à son anniversaire et le prof de parcours est venu à son anniversaire avec sa famille, quoi. Et c'était super, c'était génial, et c'est comme ça d'ailleurs que c'est devenu des amis. C'est grâce à mon fils qui était déjà ami avec lui, pour lui c'était un ami, et les voisins d'en face aussi, etc. Et de voir cette confiance qu'il a en lui pour pouvoir se dire, bah, je vaux autant qu'un adulte, il n'y a pas de différence d'âge en fait, quoi. Et que je ne vois pas forcément chez tous les enfants. Alors après, ça peut être lié à d'autres choses, mais en tout cas, je sais que chez lui, cette confiance en lui, elle a été permise par toutes ces petites choses qu'on a choisies dans l'éducation. Et pour regrouper toutes ces choses, comme tu disais, c'est faire confiance à son enfant. Parce qu'en fait, quand moi j'ai découvert, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'allaitement, en gros, si je résumais l'allaitement, c'est fais confiance à ton enfant. Donne-lui à manger quand il a... Enfin, donne-lui la tétée, pas forcément à manger du coup, mais donne-lui la tétée quand il le demande, c'est tout. Et t'as que ça à poser comme question. Est-ce qu'il demande la tétée? Oui, non, ben fais-le tétée si c'est oui, quoi. Et après, la motricité libre. Quand est-ce qu'on le met assis? Quand est-ce qu'on fait ci? Quand est-ce qu'on fait ça? Ben en fait, non, juste observe-le, regarde-le, mets-le dans un environnement dans lequel il va pouvoir se... Je veux dire, s'il est dans un parc, ça risque de le contraindre dans l'exploration de son environnement, par exemple. Alors c'est pareil, le parc, j'étais totalement contre quand j'ai commencé à m'enseigner là-dessus. Et oui, bien sûr que c'est OK de mettre un enfant dans un parc... quelques minutes parce que y a la copine qui vient et puis avec un chien et que c'est peut-être un peu dangereux de laisser le chien et le petit à quatre pattes l'un à côté de l'autre ou enfin voilà où je vais aux toilettes on est chez mamie il y a des trucs qui peuvent tomber partout ben il y a un parc je vais le mettre dans le parc pendant que je vais aux toilettes voilà ça, c'est sûr que ça va pas freiner son développement moteur quoi mais voilà en tout cas de mettre dans un parc tout le temps par exemple ça va empêcher l'enfant de développer son côté moteur mais aussi l'espace la relation à l'espace aussi le parc empêche ça s'empêche pas que le développement moteur ça empêche aussi la relation à l'espace et donc la position du corps dans l'espace après plus tard ça il y a beaucoup de psychomotriciennes qui expliqueraient bien mieux que moi tout ça mais voilà ça perturbe pas mal de choses, mais toutes ces choses là, je sais plus, je me perds dans tout ce que je dis quoi. c'est un sujet vraiment trop large, il y a tellement de choses à dire.
T'étais sur la confiance, le fait de faire confiance
oui.
à son enfant.
Oui, voilà.
Que c'était quelque chose que tu retrouvais
ouais.
dans tous les.
Ouais. Et donc la motricité libre. Je disais que quand on fait confiance, au début, enfin voilà, c'était confiance pour l'allaitement, confiance pour la motricité libre, confiance et en fin de compte, chaque chose que j'ai choisie était en lien direct avec la confiance que je portais à l'enfant. La DME, c'est pareil. Alors j'ai fait des petites fiches sur la DME et le moment quand j'avais fait un petit récap et tout ça et je me dis mais qu'est-ce qui freine le plus les gens, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils prennent, enfin les professionnels, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils mangent en fait. On ne sait pas la quantité qu'ils mangent parce qu'en fait, ils en recrachent beaucoup au début. C'est surtout de la découverte au début. Donc, ils prennent un peu, ils mâchouillent un peu, puis ils recrachent. Donc, concrètement, on ne sait pas trop ce qu'ils prennent. On voit que les cacas changent, donc il doit y avoir un truc qui passe, mais on ne sait pas du tout la quantité. Voilà. Et c'est ça, enfin, il faut vraiment lâcher prise et faire confiance à... Il est capable de savoir ce dont il a besoin, en fait. Que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes... De besoins affectifs, que ce soit en termes de développement moteur, enfin voilà. Et juste rester connecté à ces. Donc, oui, bah, tu parlais de l'hygiène naturelle, c'est pareil. C'est juste. L'important, c'est de rester connecté à ces signaux et d'y répondre, comme n'importe quel mammifère, en fait. On reste quand même
des mammifères. Pardon, des fois aussi, on peut aussi manquer d'arguments. Tu vas dire le portage c'est bien. Moi j'ai compris finalement qu'assez récemment, notamment en lisant Ingrid Bayo et une fois que tu comprends tout le processus dans sa globalité, quand tu sais que avant on était un peuple nomade et que dans l'histoire de notre espèce, finalement, qui a à peu près 300 000 ans, finalement on est sédentaire que depuis 5000 ans on va dire, c'est rien dans l'histoire de notre espèce. Et quand on était nomade, le bébé, tu le portais, ou sinon le bébé, il mourait, donc tu le portais. Le bébé, il était au contact d'autres adultes et de plein de générations, sinon il mourait, donc on était communautaire. Et c'est là où, en fait, tu comprends que c'est chouette, les progrès, c'est chouette, tout un tas de choses. C'est super chouette d'avoir fait baisser la mortalité infantile et de permettre à un maximum de familles de vivre ce bonheur, ça c'est super chouette. Maintenant, il faut remettre ça dans le contexte Et c'est là où en fait, une fois que tu sais tout ça, ça te permet aussi en tant que parent de te dire, bah, en fait, tout ce que je fais, c'est je m'écoute. Je m'écoute moi et j'écoute mon enfant. Et c'est là où je reviens sur ce que tu as dit à plusieurs reprises, c'est le lien, quoi.
Oui, le lien que tu crées avec ton enfant.
C'est le lien.
Et ce lien, il dépend de tellement de choses et il est tellement fragile, surtout au départ. Notamment, je pense à l'accouchement. Pendant l'accouchement, je veux dire, si un accouchement se passe pas bien et que l'enfant est séparé de sa mère, par exemple, bon, maintenant, on a tendance à moins minimiser ça. Mais par exemple, c'est oui, si l'enfant est séparé de sa mère au départ, enfin, le lien va être beaucoup plus compliqué. L'allaitement va permettre ce lien aussi. Alors, bien sûr qu'on peut donner un biberon avec énormément de liens, mais il y a beaucoup d'hormones qui ne vont pas rentrer en jeu, en tout cas pas au début. Et il y a plein de choses comme ça qui vont permettre ou non de favoriser un lien solide, une connexion solide avec son enfant et une confiance en soi, parce que tu disais c'était faire confiance à son enfant, et du coup on se fait confiance à soi-même, et ce lien il est dépendant de la confiance qu'on va porter en son enfant. Et il y aura des petits bruits de bébé sur le...
Ah ouais, t'inquiète.
Donc oui, ce lien il va dépendre de la confiance qu'on porte en son enfant et de la confiance qu'on se porte aussi. Donc s'il y a quelqu'un à côté de ça, parce que je parlais tout à l'heure, j'avais pas terminé, mais je parlais tout à l'heure de la chance que j'avais d'avoir un entourage qui m'avait accompagnée, qui m'avait soutenue dans ces choix un petit peu différents. Tout le monde n'a pas cette chance-là, et ça m'a tellement aidée en fait à me faire confiance, à moi, de me dire mes proches, ils me disent que j'ai raison en gros quoi. Alors bien sûr qu'on ne devrait pas avoir besoin de ça, mais c'est tellement soutenant d'avoir un entourage qui sont pas là, entre, comme tu dis, comment après avoir des arguments. On ne devrait pas avoir besoin de chercher des arguments quand on se fait confiance et quand on se dit que c'est comme ça le mieux pour notre enfant, quoi. On ne devrait pas avoir à chercher. Alors, bien sûr qu'il faut les chercher quand on est face à un professionnel ou alors à une famille récalcitrante, à un entourage qui va dire des repas de Noël où on est sans arrêt sur la personne qui porte le bébé en disant mais pose-le un peu ton bébé, il est pas bien, etc. C'est sûr qu'il va falloir trouver des arguments, mais je suis pas tellement sûre en fait que faille vraiment dans ces conditions-là essayer de convaincre en fait quelqu'un d'aligné qui dit bah écoute c'est comme ça qu'il est le mieux donc c'est comme ça que je le porte, point. Je suis pas sûre que la personne en face va insister beaucoup quoi. Mais ça c'est une question de confiance en soi quoi, du coup. Que oui, je pense que si on a confiance en soi, il y a beaucoup de problématiques qui s'échappent quoi, concernant la parentalité. Mais cette confiance en soi, elle dépend aussi des facteurs environnementaux, de comment on a vécu l'accouchement, de comment on a vécu les premiers mois, les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines, des connaissances qu'on a aussi, de l'entourage qui va être plus ou moins soutenant. Et donc la parentalité, elle dépend de tout cet environnement qu'on a, sur lequel on n'a pas vraiment d'emprise, quoi.
Et puis aussi sur un terme que tu as utilisé, qui est le terme d'être aligné. Là, je pense à tous les parents qui... Ce que je me dis là, on parle de plein de choses géniales. Et je voudrais juste rassurer tout le monde, que ce soit moi ou que ce soit Virginie, on a plein de moments où on se sent fatigué, où on se sent avec pas assez d'énergie, avec pas assez de patience. Enfin, je pense qu'on a tous des moments comme ça. Et c'est là où être aligné, ça permet aussi de savoir les reconnaître, de savoir les accepter, de savoir comprendre que devenir parent, c'est pas non plus, ça n'est surtout pas devenir parent parfait. Il n'y a pas de parent parfait, entre guillemets. On a tendance à pouvoir croire qu'on est en train de vendre une parentalité où tout est génial, où tout est tout le temps rose. Non, c'est devenir parent, c'est aussi, pour moi, apprendre à accepter ses doutes, essayer de les comprendre, essayer aussi peut-être des fois de se confronter à ce que nous on a vécu. En tout cas, en tant qu'enfant, c'est un vrai miroir qu'on se prend dans les dents. Et c'est pas que des moments faciles. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces moments-là, tu vois.
Je te suis, enfin, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Et je voudrais aussi rajouter que là, je parle de mon expérience, où moi, je me mets souvent la barre très haut dans tout ce que je fais, en fait. Je suis très exigeante avec moi-même. Et que du coup, je veux aller à fond dans tout en même temps. Et que, ok, moi j'ai fait tout ça, enfin j'ai essayé de faire tout ça à ma manière aussi, parce que, bon, j'ai pas fait à fond tout non plus de ce dont je parle, mais, euh, mais que la parentalité, c'est pas se renseigner sur tout ça, c'est pas aborder l'hygiène naturelle, puis la motricité libre, et ça, et ça, et ça. C'est vraiment, pour moi, s'écouter, écouter son enfant. Et puis, quand je dis s'écouter, c'est s'écouter dans ces moments difficiles, c'est-à-dire... Ça m'est arrivé, mais quand j'y repense, j'ai une tristesse en moi des erreurs que j'ai pu faire, des moments où j'ai crié, mais même hurlé après mes enfants, quoi. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée, la plupart du temps, c'était parce que j'étais crevée, en fait. Mais de me dire ces moments-là, et pourtant, je me suis excusée après, et je sais qu'il ne va pas y avoir de séquelles pour eux dans ces moments de doute, parce que dans ces moments de craquage, dans ces moments d'explosion, dans ces moments de chaos, en fait. Et oui, la parentalité, c'est aussi savoir se pardonner et se dire, bah, c'est normal, ces moments-là sont normaux aussi, parce que on n'a pas forcément été élevé de cette manière-là, et si on veut faire un peu autrement, bah, ça nous demande énormément d'énergie, énormément de ressources qui sont pas forcément faciles à avoir quand on a des enfants et qu'on est fatigué, parce que ben, les enfants, oui, ça fatigue, quoi. Et forcément, on a des moments où on n'est pas au top de ce qu'on voudrait, on n'est pas... Et ces moments, il faut savoir les accepter. Et quand je dis se faire confiance et s'écouter, c'est ça, c'est écouter aussi que, ben, voilà, aujourd'hui, je suis plutôt tout en bas... Et j'ai pas la forme, et j'ai aucune patience, et j'arrête pas de râler, et je me suis énervée après lui tout à l'heure parce que bah, juste il a fait ça, et alors que je sais que c'était une découverte, je sais qu'il voulait pas, je sais pas, je pense à une fois où j'ai crié parce que il avait, je sais plus, un yaourt ou je sais plus quoi dans la main, et il s'est mis à agiter sa cuillère et il en a mis partout sur le mur. Enfin, c'était un truc qui tachait, en tout cas. C'était pas un yaourt, c'était un truc coloré. Mais bref. Et de la compote ou je sais plus quoi. Et là, j'ai crié. Mais en plus, j'ai entendu ma mère, en fait. Donc, j'ai entendu mon vécu. C'était mon enfant intérieur qui criait exactement comme on lui avait crié dessus, en fait. Et c'était à ce moment-là. Bah, c'est bien sûr ces moments-là où de fatigue, de ras-le-bol, où la manière dont on a été élevé ressort. Alors, les gens qui vont avoir été élevés avec beaucoup, beaucoup de violence, c'est d'autant plus difficile pour ces personnes-là d'aller chercher les ressources en eux quand, justement, ils sont à ras des pâquerettes au niveau de leur énergie et de leur saut de besoins affectifs ou autres, quoi. Et je sais que Laetitia de Ensemble Naturellement, on parle souvent de remplir son réservoir affectif, de remplir son seau, en fait, pour que ça, c'était... J'avais fait une petite formation avec une personne qui parlait de CNV, enfin, qui nous avait ouvert un petit peu à la communication non violente et qui parlait du seau, du seau qui est rempli, du seau qui est percé, du seau qui est vidé, etc. Et quand son seau... Il est rempli, on peut donner. Quand on se fait du bien, quand on se fait confiance, quand on prend soin de soi, on peut plus facilement aller donner à son enfant, donc aller puiser des ressources dans notre seau, d'aller puiser de l'énergie pour pouvoir offrir des choses qui ne sont pas forcément naturelles parce qu'on n'a pas vécu ces choses-là. Et y a des fois, bah, le seau il est vide. Et ben, quand le seau est vide, il faut surtout prendre soin de soi et se reconnecter à soi et essayer de comprendre ses besoins. Pourquoi je ne vais pas bien? Pourquoi je suis en train de lui crier dessus? Et pas se dire, mais je suis quelqu'un d'horrible et tous les autres parents sont bien meilleurs que moi parce qu'eux, ils ne font pas ça. Mais si, ben, moi aussi, je suis bougri bouillon, je fais des affiches sur la parentalité, j'ai énormément de recherche à mon actif sur toute la parentalité et énormément de sujets, et pourtant j'en arrive à râler, à crier, à faire des choses qui sont totalement à l'inverse total de ce que j'explique voilà. Et d'ailleurs mes chroniques, la plupart du temps, sont des rappels que je me fais à moi-même, quoi. Je vais parler d'un sujet et je me trouve après, c'est souvent après que je me rends compte, tiens, c'est pertinent parce qu'en ce moment j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je ne peux pas les choisir à l'avance, mes chroniques. Et souvent, on me dit, ah, est-ce que vous traiterez ça? Enfin, je dis, oui, c'est dans ma to-do list, mais quand je vais la traiter, je ne sais pas. Parce que c'est souvent en fonction de comment ça va être pertinent dans ma vie à moi d'aller creuser, d'aller me faire des petites piqûres de rappel ou d'aller creuser sur un sujet sur lequel je n'étais pas trop encore... sur lequel je n'étais pas trop encore renseignée ou voilà. Et donc, ces piqûres de rappel, c'est nécessaire pour moi. Et tous les parents, bien sûr, vivent des moments de difficulté comme ça, qu'on se remette en question sur son éducation ou pas, d'ailleurs. Parce que même quand on ne remet pas du tout en l'éducation classique, quand on ne remet pas en cause l'éducation classique, on a quand même ces moments où on n'est pas forcément en lien avec ce qu'on voudrait être en tant que parent, quoi.
Ah oui, non mais complètement. Moi, je sais que j'ai dans les discussions que j'ai pu avoir avec des parents, et puis plus spécifiquement avec des hommes, je rencontre vraiment beaucoup de parents qui sont, et en tout cas de pères, qui sont déchirés de dire « Non mais là, je dois intervenir parce que je suis l'homme, je suis l'autorité, mais tout ce que j'ai envie de faire, c'est lui faire un câlin. Bah, fais-lui un câlin. » T'as envie de... et c'est là où j'ai envie de dire... on se parle de ces moments où on va mal, et je veux juste reprendre un terme que tu as utilisé au tout début de notre échange. Tu parlais des enjeux. Mmh. Et à un moment, si tu veux, pour moi, devenir parent, c'est aussi comprendre qu'il y a plein d'enjeux qu'on a avant d'être parent. Ce que machin va penser, ce que truc va porter, ce que machin va penser, comment est-ce que je vais être perçu. En fait, à un moment, là encore une fois, tu t'en fous. Tu t'en fous. C'est moi combien de fois tu as un truc tout bête. Je te donne un exemple. Hier ou avant-hier, je sais plus, ma fille, je l'habille, elle met une culotte, elle met un short. Ok. Et puis elle revient avec une culotte jaune et elle me dit qu'elle veut la mettre. D'accord. Je lui demande si elle veut enlever son short. Non, je veux la mettre par-dessus. Bon, ok, elle est sortie avec une culotte jaune par-dessus son short vert. Et j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui me regardaient bizarrement, si tu veux. Mais en fait, je m'en fous, tu vois.
Ouais, mais ce lâcher prise, il est pas simple quand même, hein, parce que là tu me dis ça, je sais pas si je serais capable. Je pense que j'argumenterais énormément avant de leur permettre de faire un truc comme ça. Et pourtant, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que c'est son corps, c'est lui qui choisit comment il va s'habiller, quoi. Surtout s'il n'y a pas, il y a pas de danger, rien. Mais à partir du moment où il y a pas de danger, pourquoi j'ai à intervenir? Et pourtant, je me rends compte là, quand tu me dis ça, que j'aurais des difficultés. Alors, peut-être que la réflexion me permettrait de me dire, tu sais que c'est mieux de faire ça, donc fais un travail sur toi et laisse-le faire ça de ton côté. Comme quand il grimpe à un arbre ou je sais pas, enfin en tout cas très haut, trop haut pour moi, quoi. Et que je me dis, ne le regarde pas, en fait, quoi. C'est fais-lui confiance, et lui faire confiance, c'est de ne pas le regarder, parce que tu vas forcément avoir peur si tu le vois, si tu le regardes. Tu lui fais confiance, tu sais qu'il est capable, tu lui as donné tous les outils pour pouvoir avoir conscience de son corps, conscience de ses capacités, donc maintenant, laisse-le faire, quoi. Et voilà, et l'histoire de la culotte jaune par-dessus le short, là, pour moi, c'est le même lâcher-prise que de la laisser grimper tout en haut de l'arbre.
Ah, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que ma belle-mère qui était à la maison à ce moment-là, elle m'a vu revenir, elle m'a dit « Non mais attends, mais t'as vu qu'elle avait sa culotte jaune par-dessus son short vert ?» Ouais, ouais. Et ça a été, mais les gens ont dit quelque chose? Peut-être qu'ils ont voulu, mais ils l'ont pas fait. Enfin, j'en sais rien. Mais après, si je conçois hein, que ce soit, c'est pas facile. On a aussi toute cette pression sociétale, mais à un moment, c'est tellement libérateur de dire je m'en fous. Juste m'en fous. Il y a pas d'enjeu, quoi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, on a parlé de beaucoup de choses. Si tu devais, je vais te poser la même question que je pose à tout le monde à arriver vers une fin d'interview, c'est si tu avais un message là, à passer soit aux parents qui sont, enfin, soit aux gens qui sont déjà parents, soit aux parents en devenir, qu'est-ce que tu voudrais leur dire en synthèse?
Ouais. Je l'ai déjà un petit peu dit, dans le sens où le principal, c'est la confiance qu'on va pouvoir trouver pour nous-mêmes, parce que on n'a pas forcément été élevé pour avoir confiance en nous. J'ai l'impression qu'on est une génération qui a très peu confiance en soi. Mais trouver la confiance en soi pour aller sur les chemins qui nous parlent, les chemins qui nous disent oui. Et par exemple, ton bébé il pleure, ça te crève le cœur, et ben le laisse pas pleurer, c'est tout. Et ensuite, la deuxième, c'est de faire confiance en son enfant, quoi. Parce que il est le seul à savoir si ce qu'il lui faut, comment il lui faut. Et du coup, à partir du moment où on se fait confiance et on fait confiance en son enfant, Eh ben, je pense qu'on est plus à l'écoute de nos petites voix intérieures, de nos guides, de nos anges, de voilà, peu importe comment on les appelle. On est beaucoup plus en connexion et à l'écoute de ces petites voix intérieures qui nous disent que ce qu'on fait, c'est bien, en fait. C'est bien pour nous et c'est bien pour notre enfant. Et pour moi, la parentalité, on va dire, la meilleure parentalité qui soit, c'est un parent qui se fait confiance et qui fait confiance en son enfant, quoi. Et donc, du coup, qui va lui donner et l'exemple de comment on se fait confiance et le tremplin de « je te fais confiance, donc tu vois, toi aussi, tu peux te faire confiance, quoi. » Voilà.
Bah écoute, j'ai pas mieux à dire. Donc bah écoute, Virginie, merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie,
avec
pour ces mots.
Plaisir.
Et surtout, merci beaucoup pour ton travail que je recommande plus que chaudement. Moi, en tout cas, ça m'a tellement, tellement, tellement apporté. Donc merci aussi pour ça. Et je te dis à très bientôt.
À bientôt. Salut.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.